décoration, home staging,
stratégie immobilière,
rénovation.
Sur XM 172.
Immobilier et hypothèque avec Stéphane Bruyère.
43 minutes passées l'heure, ça grouille encore et encore en studio puisque nous sommes maintenant un nouveau trio.
Ça roule d'invités dans ce studio.
Oui, bien, ça a été peut-être un peu pénible et difficile de trouver des invités au début, puis aussi des gens qui sont intéressants pour nos auditeurs. Mais je trouve qu'on commence à avoir une bonne brochette. D'ailleurs, Yves veut commencer à s'en venir de plus en plus avec... venir m'aider dans mon rôle de recherchiste.
Je me développe un rôle de recherchiste, effectivement. On s'est échangé des courriels hier. Et puis, pour le 21 octobre, j'ai la confirmation de M. André Fauteux, qui est l'éditeur en chef du magazine La Maison du 21e siècle.
OK, il va falloir regarder ça tantôt.
Oui,
parce que
c'est
déjà booké quelqu'un, moi, là. On va parler de la recherche à l'extérieur des...
On le tassera, mais ce que je veux dire aux ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que si vous avez des sujets, gênez-vous pas. Hein, vous pouvez y aller via Stéphane ou via yvescarignan.com. Proposez vos sujets parce que je regarde la pluie qui s'en vient et bientôt la neige. On a des sujets intéressants, parler de ventilation, parler de chauffage.
J'ai un bel article, justement, que Gilles Auger. Moi, j'aime bien Gilles Anger ou Gilles Auger du soleil. Je trouve qu'à l'occasion, il amène des articles au bon moment. Par exemple, parler des fissures au sous-sol.
Oui.
Et puis, c'est ça, les différentes choses à faire avant l'hiver. Mais avant tout,
oui,
nous avons... Yves m'avait dressé une liste de sujets, mais, mesdames et messieurs, nous l'avons de retour. Chantal Lapointe, designer.
Bonjour, Chantal. Bonjour.
Et puis, Yves, je vais te laisser aller avec Chantal.
Oui.
Moi, je vais faire peut-être le néophyte de votre segment d'activité.
C'est à ton tour de jouer le rôle du gars qui connaît rien. Je suis très content que Chantal soit là parce que, comme on l'expliquait il y a deux semaines, il y a beaucoup d'interrelations qui se fait entre la technicienne en architecture, un technicien de dessin de roman par rapport à un groupe de designers ou le travail du designer. Alors, Chantal, la semaine passée, on a parlé de différents éléments.
Excuse-moi,
le temps passe vite. Je dis toujours la semaine dernière. C'est il y a deux semaines.
Mm-hmm.
On a discuté de ça. Et cette semaine, je sais que tu avais quelques sujets. On peut peut-être entrer avec tes sujets parce que moi, j'en avais quelques-uns aussi de mon côté.
De quoi tu veux nous parler? Je savais même pas ça. Là. De quoi tu veux nous parler?
Je vois que tu as plein de choses.
J'ai fait une découverte cette semaine au niveau des climatisateurs.
Oui.
On est habitué d'avoir des climatisateurs qui sont blancs. C'est un appareil qu'on met au-dessus de nos portes. Bien souvent, les climatisateurs, il faut que ça soit très haut dans la pièce parce que ça va climatiser et on peut aussi avoir un modèle pour chauffer notre maison.
C'est vrai.
Alors là, ils ont sorti des nouveaux systèmes qui sont miroirs. Donc, à ce moment-là, quand vous placez votre appareil dans le haut de vos murs, si vous avez une fenestration et on voit à l'extérieur, c'est que quand on entre dans la pièce, on voit les arbres à l'extérieur au lieu de voir un appareil qui est en fer blanc accroché dans les airs.
Excuse-moi, donc, moi, je perds. Je comprends pas le bout, là. Je comprends pas. Donc, je rentre dans la pièce, mais tu dis qu'il est miroir.
Oui.
C'est qu'au lieu d'avoir ton unité, parce qu'au niveau du climatiseur, tu as ce que tu appelles la...
des restos, peu importe, c'est lettre comme elle garde.
Bien, c'est ça, c'est la grosse boîte blanche carrée que là, toi,
ça,
tu peux voir.
C'est fun de montrer ça qui sont en retour.
Pour les auditeurs, là, c'est ça, c'est une boîte qui peut avoir 3 pieds de large par peut-être 1 pied de haut, qui ressort de peut-être 8 pouces du mur et qui souffle l'air froid. Il doit être en haut parce que l'air froid... ça en va directement sur le sol. Donc, si on ne veut pas avoir un inconfort au niveau des pieds, la climatisation, elle est toujours plus efficace si elle vient du plafond que du sol.
Le concept miroir...
On part de ça. C'est que là, l'unité qui est au mur, elle est fixée avec un appareil à l'extérieur. Ce dont elle parle, c'est à l'intérieur de la maison, au lieu d'avoir de la grosse boîte qui souffle l'air, elle serait cachée en arrière d'un élément décoratif.
C'est à peu près ça. Autrement dit, le devant est en miroir fumé. Donc, quand on entre dans la pièce...
Alors, on le voit pas.
On le voit pas du tout. Il se perd dans la pièce. C'est super intéressant. C'est LG qui fait ça. Et d'autant plus, très, très intéressant, je l'ai montré à Yves tout à l'heure, vous pouvez mettre votre climatisateur derrière un tableau dans lequel vous allez mettre des photographies de vos voyages. OK? Comme les tableaux qu'on peut acheter, qu'on peut insérer numériques.
Oui.
C'est la même chose. Le procédé est le même. Par contre, votre climatisateur est mural. Puis en arrière de ça... votre maison est climatisée.
Je ne sais pas si tu viens de ça la semaine passée quand tu es venu en studio.
Il y a deux semaines.
Il y a peut-être un mois. Je parlais c'était qui? Donc, c'était Electrolux qui s'en venait avec une nouvelle gamme de produits. Tu sais, des choses qui n'existent pas encore dans le marché, Donc, par exemple, je parlais des réfrigérateurs ou de la façon qu'on va laver notre linge, etc. Tu vois, là, tu parles de quelque chose qui... Pourquoi on n'y avait pas pensé avant, là?
C'est
lait. Ça t'arrive, là, tu rentres dans des maisons, dans des restos. Regarde, je suis allé une fois chez Pat Retro, puis on le voyait, il était planté là, puis il faisait frais comme elle garde. Désolé, c'est excellent, Pat Retro, mais on aurait peut-être dû descendre un peu le vent dans le cou, là, parce que personne ne voulait s'asseoir dans ce secteur-là. Puis c'est souvent le cas, tu sais, on voit ça, c'est-à-dire qu'on voit le mur blanc en haut, qui va aller se placer en dessous?
Bien, c'est en plein ça. Bien, premièrement, il faut que tu diriges l'air climatisé en fonction de l'occupation de la pièce. Là. Si tu as une pièce, ton air climatisé doit envoyer de l'air, le pire endroit, selon moi, c'est de l'envoyer dans le salon, sur les divans, où est-ce que tu vas avoir de l'air dans le cou.
Madame décoratrice, accessoriste et designer, où est-ce qu'on les met, eux, ces appareils-là?
Bon, on les met le plus discret, mais souvent, les gens ont quatre murs, puis il faut le mettre à un endroit dans les airs, puis on a du papier peint. On a pris la peine de poser, d'installer un beau papier peint. Notre vêtement mural est installé. Puis là, le monsieur, il passe après nous, puis il va mettre la petite boîte de métal en haut.
Et ce qui serait encore plus laid, c'est de remettre le papier peint par-dessus la boîte de métal.
C'est affreux. Alors, moi, j'ai découvert ça, puis je voulais en parler. C'est LG. Alors, les gens connaissent ça. C'est distribué à Québec.
Est-ce qu'il y a un site web que les gens puissent aller voir ce produit-là? Je trouve ça bien intéressant parce que c'est vrai que c'est une laideur.
C'est.lapointe@commercial.gmail.com.
Oui, on pourra le...
Ça, c'est un email, mais le site web de LG où de mettre le lien...
Oui, on va mettre le lien. Ça serait intéressant pour les gens. Puis aussi, on peut l'avoir dans les plafonds. C'est un climatisateur, mais qui est intégré dans un plafond, dans le fond, comme si on avait un fan dans une salle de bain.
Oui, je pense carrément quand
tu as
une trappe d'air en haut
mais
de nos
mains. Mais il est quand même intéressant, là.
On peut dire le nom parce que je connais. J'ai déjà été dans Ventilation. C'est M. Miville à Québec, qui est une excellente compagnie. Le www.miville.ca. Je suis persuadé que le produit est sur son site et il y aura un hyperlien vers le produit de climatisation LG.
Puis vous pouvez l'avoir avec la domotique aussi, contrôle système...
Control 4.
Exactement.
Qui est un...
C'est très important. Contrôle à distance et... avec votre domotique, avec l'éclairage et la musique, comme on avait parlé, il y a deux semaines. C'est bien ça.
Est-ce que tu as beaucoup de demandes pour la domotique de ton côté?
Oui, actuellement, je suis en train de faire une cliente. On a finalisé ses plans. Puis justement, je suis allée rencontrer Miville. Puis c'est là que j'ai vu ce nouveau produit-là.
D'accord.
Alors, eux autres, ils vont faire tout l'aménagement des condos qui sont un penthouse. Et on va tout faire ça, domotisé avec l'éclairage, la musique, ainsi que la climatisation et le chauffage.
Pour la construction neuve, c'est bien certain que la domotique devient quelque chose d'intéressant parce qu'on passe tout le filage pendant la construction, mais je veux dire, les gens qui ont...
Est-ce que c'est un must maintenant? Est-ce que ça fait partie, je dirais pas, de... Tu sais, j'avais Marc Laliberté la semaine dernière, puis il me disait, bon, ben il travaille pour Alliance Habitation, en tout cas pour ceux qui
Marc Lachance.
La Chance, excusez-moi, j'ai dit Laliberté.
Laliberté, c'est pas grave,
Je me suis trompé avec un autre chroniqueur, en tout cas financier. C'est ça. Donc, Marc mentionnait qu'on a plus de, il pose plus de 400 questions quand il rencontre un client.
Oui.
La domotique doit être là maintenant, je ne dirais pas plus que jamais, mais je veux dire, c'est comme nouvelle tendance, comme le plasma maintenant.
Je parle dans mon cas, je vais laisser Chantal répondre pour son cas à elle, mais dans le cas, nous, on le voit beaucoup en construction neuve, on va le voir dans les clients qui vont aller vers la maison un petit peu plus haut de gamme. Elle a été, c'est très souvent, les tendances partent avec le haut de gamme et par la suite, ils développent pour la masse. Et puis là, on commence à parler au niveau de la domotique, en plus de parler que c'est accessible pour la masse, parce qu'un système domotique Control 4 que je vous parlais, c'est celui qu'on m'a présenté, que dans un cas de rénovation, donc la maison est déjà construite, tu peux installer ça et on parle de factures d'à peu près 3 à 4 000 $. Moi, la domotique qu'on m'en parlait il y a à peine 5 ans, c'était du 10 et du 15 000 $. Je ne l'ai pas essayé. Ce que je veux faire dans les prochaines étapes, c'est de reparler avec la personne pour dire, est-ce que tu as des clients qui l'ont eu? Est-ce que je peux les contacter, voir est-ce que tout fonctionne, tout est à leur goût? Parce que ça te permet un contrôle de tout ce qui est d'appareils électriques à l'intérieur de la maison. Ça te permet de partir ton chauffage à distance. Fait qu'au niveau d'efficacité énergétique, c'est sûr que c'est un must dans une nouvelle construction. Si vous construisez une maison neuve et que vous avez un lus dans votre budget, c'est un des éléments importants car parce que dans 5 à 10 ans, ça va devenir une norme.
À court terme, c'est peut-être plus cher, mais à moyen et long terme, on doit sauver. Là, je veux dire, au niveau de l'énergie, je veux dire, le roulement énergétique de la maison est beaucoup moins énergivore lorsque les habitants ne sont pas là?
Je donnais l'exemple, c'est comme mon exemple à personnel des 12 lumières du sous-sol. Quand la porte du sous-sol est fermée, moi, je ne vois pas que c'est allumé en bas. Ton contrôle domotique va pouvoir dire « off » pour toutes les lumières du sous-sol sans que tu ailles à descendre, faire le tour du sous-sol puis tout fermer les lumières. C'est des exemples comme ça. Ou si quelqu'un est allé utiliser la télévision en bas, il fait froid un peu, il a augmenté le chauffage, il a oublié de le rebaisser, bien, tu fais un contrôle de nuit dans ton sous-sol, ce qui veut dire que tu éteins les lumières, tu baisses le chauffage à 20 degrés, tu fermes tous les téléviseurs, tous les vidéos, tous les appareils électriques. Pendant
ça, c'est des vampires de temps, ça. Pardon, d'énergie, c'est des vampires.
Voilà, oui. L'ordinateur, t'as beau être sur...
Regarde,
ça consomme énormément. Donc, dans notre cas, nous, la demande est de plus en plus grande.
Chantal? Moi, je pense que c'est indispensable, que les gens devraient le mettre dans leur maison tout de suite au départ, par rapport que quand on arrive pour vendre aussi une résidence, qu'est-ce que les gens nous demandent? Est-ce qu'on peut voir vos factures d'hydro?
D'aplomb.
Alors, tu sais, on le voit tout de suite. Là, si la personne a s'est mis la domotique, il y a une énergie qui a été finalement moindre sur le coût de l'hydro.
Oui.
Je pense que c'est un facteur très, très important. Puis d'autant plus que les gens aussi vont voyager, vont s'acheter une belle voiture. Moi, je pense, tout dépendant de chacun, où vous voulez mettre votre budget, mais je pense que c'est un must. Puis au lieu d'aller chercher peut-être un petit plus au niveau du voyage, un petit plus au niveau de la voiture, je pense que c'est indispensable de le prévoir dans la construction, surtout une construction neuve.
Ce sont des choix, et ces choix-là, quand on parle de choix rentables au niveau de la revente, ta maison est équipée de domotique, ça a une valeur, très bonne valeur sur le marché.
Dans un marché où je crois qu'il va ralentir le marché de l'habitation, la revente, construction neuve, lorsqu'on va arriver pour vendre nos propriétés, je pense que c'est des éléments qui sont bien importants. Oui, on regarde le compte de taxes municipales et scolaires, mais de regarder le coût énergétique de la propriété, c'est un élément important parce que je ne crois pas que les frais diminuent au niveau de l'énergie d'ici les 5 à 10 prochaines années.
Je ne crois pas.
C'est plus le contraire, moi, là.
Non. Effectivement, je suis d'accord avec toi.
C'est la même chose pour l'isolation aussi. Yves, il pourrait nous en parler. Tu sais, des fois, les gens vont nous dire, est-ce que vous faites votre maison Novo Climat? Les gens vont hésiter. Bien, moi, je pense qu'il faut le mettre tout de suite au départ.
Mais c'est pas une norme, ça, mais ça. Et...
Bien, c'est que dans le prochain code du bâtiment, la rumeur disait que Novo Climat deviendrait la norme de construction. Et je pense qu'on s'en vient vers ça, parce que c'est de l'énergie gaspillée. Mais en même temps, des rumeurs que j'entends, c'est qu'Hydro-Québec aurait des intentions de laisser tomber sa participation dans l'Agence d'efficacité énergétique, parce qu'au moment où on se parle, on a trop d'électricité, ça ne donne rien de l'économiser. La revente d'électricité aux États-Unis, puis ainsi de suite. Là. Au moment où on se parle, semble-t-il qu'Hydro aurait trop d'énergie. Alors, le fait de vouloir absolument l'économiser n'est plus une priorité pour cette charmante entreprise, ce qui fait en sorte que Novo Climat et l'efficacité énergétique, on va en entendre peut-être un petit peu moins parler. Cependant, les coûts pour le consommateur, ils s'en iront pas diminuant, même si on a des surplus d'électricité en haut.
C'est sûr.
J'en parlais avec Jeff deux semaines, celle-là aussi. C'est que Hydro-Québec, présentement, vend son électricité au Vermont et dans l'État de New York moins cher qu'il nous la vend à nous. Alors, ça donne une idée des surplus qu'ils ont. Alors, on n'entendra plus beaucoup parler d'économie, d'énergie pour eux, mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est très important. Si on jumelle l'isolation, une maison très efficace au niveau énergétique, on rajoute une domotique à ça pour contrôler les gobeurs d'énergie, comme on parlait tantôt, la facture d'électricité va diminuer.
Et quand tu regardes ça dans une maison, c'est incroyable comment on en a justement ces vampires d'énergie-là qui sont là, est-ce que ce soit la Wii, que ce soit l'ordi...
C'est parce que chaque chose que tu rentres
sans fil ou peu importe, que tu connectes, tu achètes un téléphone, mais là, tu en as trois autres, qui sont sans fil, toutes les autres aussi connectées. Puis là, tes batteries sont chargées là. Donc, je veux dire, tout ça roule. Là,
les multiples téléviseurs aussi qu'on ajoute dans chacune des pièces.
Tu regardes,
l'énergie beaucoup.
Tu regardes l'utilisation des prises électriques d'il y a 10 ans, 20 ans, versus aujourd'hui, sont surchargées. Il faut que tu en rajoutes, puis tu en rajoutes. Et le code va sans doute changer là-dessus parce que tu avais des prises électriques. Je crois que c'est aux 8 pieds. Hein? Chaque 8 pieds sur un mur, tu avais besoin d'une prise électrique. Mais là, il faut que tu... Grâce au designer, tu peux en mettre beaucoup dans des sections où c'est plus caché. Et parce que tu regardes les maisons d'aujourd'hui, là, puis c'est la petite prise unique que tu avais, ben, très souvent, elle va être double. Puis près des téléviseurs, je ne sais pas, ceux qui s'installent des plasmas avec un cinéma maison, un DVD et tout, les couettes de fil, c'est à peu près le 5 pouces de diamètre. c'est épouvantable, tout le filage qui est en arrière de ça. Puis chacun a son branchement électrique aussi. Donc, je crois, moi, la domotique va être un must. Elle est un must, elle le sera beaucoup dans le futur.
Les fenestrations aussi, c'est un économiseur d'énergie aussi dans l'achat de vos fenêtres. Peut-être que Yves, il pourrait nous parler là, dans son marché à lui, qu'est-ce qu'il conseille, qu'est-ce qu'il suggère à ses clients? Des fenêtres hybrides ou...
De ce que je connais de la fenestration, c'est que
c'est quoi une fenêtre hybride?
Hybride, c'est une fenêtre qui peut être PVC à l'intérieur et en acier à l'extérieur. Alors, des fois, les gens vont se demander quel est le produit le plus intéressant. C'est sûr que l'acier à l'extérieur, on n'a pas de peinture à faire. Le PVC, des fois, il peut s'altérer, il peut changer légèrement de coloration par rapport au soleil. Donc, moi, je pense que c'est important l'acier à l'extérieur. Et le PVC à l'intérieur, au niveau entretien, ça s'entretient très, très bien. Là.
Tu manges juste ses paroles. À chaque fois qu'elle parle, tu es là, tu fais
ben non, grands signes
de tête de oui.
Je suis d'accord avec ce qu'elle
oui,
dit, oui. Effectivement. Parce que tu regardes la bonne vieille fenêtre de bois, elle a son charme, elle a sa chaleur, et c'est encore très bon. Puis ils ont amélioré les technologies aussi. Mais le PVC est devenu un produit qui était utilisable et beaucoup utilisé parce que le coût était moindre.
Oui.
Le PVC, il peut avoir un effet...
C'était annoncé au coton, il me semble que c'était la mode. Là.
Oui.
PVC.
C'était
PVC,
le sans entretien.
C'est
comme
aujourd'hui,
le moins
acheter,
cher.
Payer à TPS, puis on paye la TPS, la TVQ.
Tu avais l'impression qu'il y avait de quoi en arrière de ça, parce que pour les manufacturiers, c'était le matériel le moins cher et c'était efficace. Et le PVC blanc, ben, on en voit partout. Quand on tombe, je faisais signe que oui, quand on tombe dans le PVC de couleur, tu regardes au bout de 10 ans, il se peut. Il y a des gens, il y a des manufacturiers qui vont le garantir, mais je ne sais pas, je veux pas trop m'avancer là-dedans, mais si ta fenêtre qui est plein sud, dans 10 ans qu'on parle là avec la fenêtre qui est nord, et si tu as une couleur qui est brun commercial, tu vas voir qu'il peut y avoir une altération là. Mais bon, le matériel en tant que tel demeure bon, mais c'est sûr que l'utilisation de l'aluminium à l'extérieur est un élément intéressant. C'est comme à vie, la décoloration va se faire beaucoup moins rapidement qu'avec le PVC.
Chantal, j'aimerais avoir ton point de vue. Tantôt, on a parlé en début d'émission de l'acier versus le bois. On commence à avoir de plus en plus là, il y a un lobby qui doit se faire quelque part, il y a un protectionnisme de l'autre côté, mais d'essayer d'instaurer un peu plus les structures en métal. Puis tu avais le nom de la compagnie,
Bone.
Et on dirait que c'était en vogue dans l'Ouest canadien, dans le secteur des
Laurentides,
exact.
Ça, oui.
Parce qu'on voit de belles propriétés, très fenestrées, etc. Est-ce que tu commences à avoir une certaine clientèle qui demande ça ou
toi,
c'est la première fois que tu entends parler de ça?
Tu parles, dans le fond, au niveau structure, quand
on
monte la maison.
Oui.
Bien, moi, là, j'ai ma maison, à moi, elle avait été montée avec toute une structure d'acier. Mon entrepreneur me l'avait conseillé parce que j'avais...
Celle que tu viens de vendre, là?
Oui, j'avais un mur de 30 pieds. Qui allait dans les airs. Puis voilà. Il me dit, étant donné qu'ils vendent beaucoup, tu es dans une région au lac Beauport qui vendent énormément, je te conseille, il dit, c'est encore là, c'est pas un coût qui va être très élevé pour toi. Puis moi, je suis habituée dans le commercial. Mon entrepreneur était habitué dans le commercial, alors il m'a suggéré ça, je l'ai fait. Et j'ai vu une forte différence parce que la maison, elle travaille moins. Puis, c'est
outre
vraiment...
de travailler, quelle autre différence ou quel jeu tu as pu avoir qui ça t'a permis que
le seul inconvénient que je peux voir à ça, c'est quand on arrive pour fixer des choses au mur. Parce que si on a des 2x4 en bois, mais c'est sûr que quand on arrive pour visser, on est dans un bois. Alors que là, si c'est de l'acier, c'est pas évident à installer des choses au mur par
bon
vous-même.
Point.
Moi, je les ai fait installer par mon entrepreneur. Tout ce qui était tablette, tout ce qui était finalement fixe, que je savais qu'elle allait être là pour longtemps, là, c'est peut-être le seul inconvénient. À part ça, là, la maison, la structure est solide.
Aucune
moisissure aussi. Vous évitez la moisissure. Si vous avez un dégât d'eau, là, vous évitez tout ça. Là. C'est beaucoup. Là.
Sur les murs extérieurs, la structure est en acier, mais à l'intérieur, les cloisons, est-ce qu'ils utilisaient de l'aluminium
ou
est-ce qu'il y avait du 2x4 et du 2x6 sur les murs extérieurs?
Ils utilisaient de l'aluminium à l'intérieur.
D'accord. Faudrait essayer. Je vais essayer d'avoir quelqu'un qui fait de la structure d'acier dans le résidentiel. Je vais être capable de trouver ça puis d'avoir une entrevue avec, à savoir comment ça fonctionne concrètement. On a tous vu des maisons se monter avec du 2x6, structure de bois, isolation, la laine rose et ainsi de suite. Mais de discuter de ça parce que ça a un élément intéressant, une structure d'acier, par exemple, au niveau de la coquille de la maison, mais à l'intérieur aussi, là. Tu oublies tes poteaux dans le sous-sol aussi, là. C'est un gros beam d'acier qui traverse puis qui est soutenu par d'autres poutrelles. puis que tu as beaucoup d'acier dans ta structure, ben ton sous-sol, tu n'as pas de poteau. Ceux qui s'installent une table de billard vont très bien savoir de ce que je parle. Il y a toujours un poteau à quelque part.
Je trouve ça c'est particulier, pareil, parce qu'on entend parler de... C'est comme des nouveaux... c'est une mode... on a ça dans l'habitation, donc le métal dans l'habitation, mais que tu vois qu'on construit... On a construit un stade de soccer intérieur en bois. On veut s'en venir avec un colisée en bois. C'est drôle parce que, me semble, le métal va à l'industriel, puis le bois, ça va au résidentiel. Puis, me semble qu'on n'est pas supposé mixer les deux. Là.
Ben, je pense qu'au niveau du Colisée, on parle aussi de que ça représente un peu la région. Ouais, donc, si tu construis un stade à Sorel, ben, c'est peut-être qu'ils vont vouloir l'avoir en acier.
C'est comme des normes ou des idées qu'on refait. On a refait nos idées. Là, je veux dire, c'est comme tantôt, on parlait du. L'échangeur d'air ou du... Comment on appelle ça?
Climatiseur.
Bon, ouais. Qu'on peut maintenant les camoufler ou qu'on peut même mettre des choses devant. C'est magique, ouais. Là.
Mais tu regardes, c'est ça. Donc, c'est deux écoles de pensée. Il y a quelques années aussi, il y avait la construction en béton. Les maisons de l'ossature extérieure, tout en béton. Ça a certains avantages. On amenait le côté écologique, on n'utilisait pas le bois, sauf que le béton n'est pas laisse sa trace écologique un peu plus que le bois. Mais tu sais, c'est des écoles de pensée différentes, c'est des technologies différentes. La durabilité du béton, c'est bien certain. On regarde toutes les maisons construites en Europe qui ont 500 ans, qui tiennent encore. C'est des écoles de pensée, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces gens-là et d'avoir leurs arguments. Parce qu'autour de la table ici, on a tous vu, on connaît ça un peu, mais je pense qu'il faut aller gratter un petit peu plus loin.
Moi, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Je pense que les deux vont demeurer.
T'es modéré, toi.
Oui, moi, les deux, je pense que les deux.
Ouais, non, je pense que les deux vont toujours coexister.
Mais j'avais vu une émission à la télévision qui avait parlé de faire un bâtiment, justement un stade tout en bois comme ça, puis il avait tout expliqué là, comment c'était monté. C'est sûr que c'est intéressant, puis il y avait beaucoup de courbes. Fait que ça leur permettait d'avoir des courbes plus accentuées que l'acier. Parce que l'acier, là, à un certain moment donné, tu ne peux pas arriver avec des courbes. Tu as des normes à ce niveau-là. Puis c'est ça l'avantage du bois. C'est que le bois, tu peux y aller avec une courbe plus arrondie. Hein, Yves, est-ce que j'ai raison?
D'où l'utilisation de l'acier un peu plus présentement au niveau du contemporain, qui sont des lignes beaucoup plus droites, plus carrées. L'acier se prête très bien à ce type de construction-là. Mais quand tu commences à jouer dans du victorien, je suis d'accord avec toi que le bois va avoir une malléabilité que l'acier n'aura jamais. Voilà.
Est-ce que ça t'arrive justement parce que tu me parles de courbes, est-ce que tu peux faire exprès pour travailler justement des éléments, je vais dire, quasiment structurels, donc donner des effets? Vous me parliez la dernière fois des plafonds de 9 pieds, etc. Y a-t-il des choses qu'on pouvait justement... qu'on ne faisait pas il y a quelques années, qu'on fait maintenant ou qu'on utilise pour tirer un avantage ou mettre à profit quelque chose? Est-ce que vous comprenez le sens de ma question?
Non. Tu parles de l'utilisation de l'acier par rapport au bois toujours? Là?
Carrément, travailler au niveau structure. Par exemple, on a une propriété, je veux la faire rénover, mais j'ai un irritant. Il y a quelque chose qui me barre, mais il me semble que je peux modifier le plan de la propriété ou des éléments pour carrément que cet irritant-là, je ne le vois plus.
Okay.
Ou mettre en valeur quelque chose d'autre qui m'intéresserait. Donc, justement, jouer avec les matériaux, le plan au niveau du design. Y a-tu des exemples? Je suis sûr qu'il y a des clients qui ont eu des... Tu sais, Chantal, as-tu un cas, par exemple?
On va prendre une entrée. Parfois, on arrive dans une entrée, les murs sont tous carrés. Il y a des enfants dans cette résidence.
Il y a des murs carrés.
Des murs, des coins carrés.
Que les murs sont carrés.
Non, mais non, mais on peut arriver avec un mur arrondi tout près de l'entrée. Donc, quand on arrive pour rentrer dans la maison, c'est plus doux. Si les petits-enfants ne sont pas grands, t'es sûr qu'ils ne se blessent pas. Moi, je pense que des fois, les gens, c'est sûr que là, il y a eu le côté beaucoup épuré, très moderne, urbain. Les gens, ils vont beaucoup dans le moderne avec des lignes droites. Mais les lignes rondes, il ne faut pas les oublier. Alors, parfois, dans une maison, on peut arriver avec des pièces,
lignes rondes.
Des lignes carrées. Puis arriver au niveau...
Mais ça, mais une maison, c'est fait carré. Tu regardes des plans, c'est carré. Il n'y a pas de rond là-dedans.
Mais tu peux arriver avec un passage puis l'arrondir. Même, tu peux l'arrondir juste dans les coins. Au lieu de faire un coin carré, OK, à ce moment-là, tu arrondis ton coin légèrement, peut-être d'un 3/4 de pouce.
Mais ça doit coûter cher puis ça ne sert à rien.
La
réponse est peut-être oui et non, dans le sens que tu tires un avantage... Au niveau de l'ambiance, au niveau de l'énergie, il y a une raison pourquoi tu le fais, là?
Moi, personnellement, j'aime un mur arrondi sur une plus grande surface. Mais pour les coins arrondis, j'ai fait des maisons haut de gamme où les gens font ça parce que c'est touché, c'est très beau à l'œil. Par contre, c'est pas pratique au niveau des colorations. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas capable d'arrêter notre couleur parce qu'on n'a pas de coin pour arrêter.
Puis je fais juste penser pratico-pratique. Les plaintes de plancher, là.
C'est ça.
Tu sais, l'espèce de moulure qui va au plancher.
Qu'est-ce qu'ils ont, eux autres?
Bien, c'est que quand tu arrives dans un coin de mur, je vais essayer de me verbaliser au maximum, tu prends ta moulure qui est droite.
Ouais.
On appelle ça une plainte dans le jargon. Et que tu viens la fixer là, l'autre qui part de l'autre mur vient se couper à 45 degrés.
Ouais.
Mais quand que le coin de ce mur-là est arrondi, comment tu viens fermer ta plainte dans un... Je ne sais pas, Chantal, qu'est-ce qu'il mettait comme plainte?
Bien, regarde, tu me poses la question. Il ne
faut pas que ça soit trop rond. Est-ce que tu y vas avec un certain...
J'aimerais regarder le menuisier qui travaille là-dessus.
D'après moi, ils font un petit triangle, puis légèrement arrondi. Ça se fait des moulures comme ça, là. Mais c'est vraiment pas pratique. Alors, si on veut installer un papier peint, la cliente, elle dit, ouais, « Mais là, Chantal, on peut pas l'arrêter là. Il est arrondi, il faut continuer là. » Mais là, rendu au bout, ça retourne encore. Fait que c'est sans fin. Fait que moi, je conseille pas ça à personne. Par contre, je conseille, comme je t'explique, des fois, d'arrondir un grand mur dans le milieu d'une pièce pour donner un look spécial.
Tu vas voir, tu sais, tu me parlais d'arrondi. Quand est-ce, si tu peux visualiser...
Écoute, je viens de cliquer. J'ai déménagé dans un édifice
oui.
où est-ce que les murs sont presque pas droits. Tu te promènes, les corridors, se promène dans le building, comme je me promènerais quasiment en forêt, là. Puis là, oups, il y a une porte ici, il y a un bureau. Oups, il y en a un autre. Les gars, donc ça, il y a des bains ici. Ça ne sert à rien. Qui va s'asseoir, là, je veux dire...
Il est décoratif.
C'est sûr que je regarde la largeur de tout ça. Je me dis, je voudrais m'asseoir dessus.
Et... Ah, puis ça, c'est une tendance qu'on a des fois dans nos maisons de mettre des chaises et des divans partout. Comme les Anglais disent, « Do we sit that much? » On va-tu s'asseoir un peu partout? Il y a d'autres éléments décoratifs. Chantal pourra continuer là-dessus. Mais
continue, justement. C'est quoi niveau... Où est-ce que tu t'en vas avec ton idée?
Je voulais juste amener terminer sur le point du mur rond. Dans une maison style manoir, ce que tu vas voir souvent en entrant dans la maison, l'escalier qui va s'en aller à l'étage, le côté de l'escalier va être souvent très arrondi.
Ouais.
Pour donner un look majestueux à la maison, parce que les maisons de style manoir ont souvent un escalier central. Tu es dans le hall d'entrée et tu accèdes directement à l'escalier, et l'escalier est le point d'intérêt dans l'entrée de la maison. Et souvent, elle va partir assez large, elle va s'amincir et elle va se réélargir vers le bas.
Ouais, mais ça, c'est ta donc, maison, là, c'est pas non, la maison,
non,
monsieur,
c'est
madame,
pas,
tout
non,
le monde.
La mienne est droite.
On vient de parler de quelque chose de nouveau. Peut-être l'escalier, est-ce que ça peut t'arriver des fois d'en mettre en évidence bien comme il faut?
Ah oui, de plus en plus, oui.
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour...
On allège les escaliers. On détruit les murs autour. Avant, l'escalier était toujours entre deux murs ou il y avait toujours un mur d'un côté. Alors là, on va faire des limons en acier ou des limons en bois. Puis on va porter les marches sur ce limon-là. Donc, les marches sont autoportantes avec une belle main courante qui va devenir soit en acier très léger mélangé avec du bois. Donc, quand on arrive dans la pièce, on voit toute la maison au complet. On n'est pas fermé seulement dans notre hall d'entrée. C'est de plus en plus ça qu'on voit, là.
Et ça m'amène sur le sujet du feng shui de tantôt, parce qu'il y a des critères. Ah, là, on va s'en aller là-dessus, tu vas voir, c'est une mode, mais...
Non, juste... c'est parce que tu viens de dire quelque chose de chinois ou japonais, là.
La prononciation, je crois, c'est feng shui. Mm-hmm. Ça s'appelle F-E-N-G-C-S-H-U-I. Je répète,
mêlé, là.
F-E-N-G.
Oui.
S-H-U-I. C'est une façon qui est japonaise, je crois, et qui... c'est une façon de décorer la maison, ou de même pas décorer, c'est d'aménager la maison pour amener un côté zen, et c'est une croyance. Je ne sais pas le terme employé. Je vous dirais qu'il y a 4-5 ans, il y a eu beaucoup de gens qui étaient des consultants feng shui. Comment rendre ta maison plus feng shui pour
c'est la première fois, Chantal, t'entends parler de ça ou quoi?
Non, je suis sûr que
moi,
non.
J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas embarqué dans ça parce que moi, j'y vais avec mon âme, j'y vais avec mon senti.
C'était vraiment une croyance, puis c'était nouveau. Et les gens questionnaient là-dessus il y a 5 ans. Et quand Chantal est arrivée, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on en reparle un peu, qu'on situe un peu les auditeurs là-dessus. À savoir, parce que nous, sur nos blogs et sur les informations que nos clients nous envoient par courriel, on se fait présentement poser de plus en plus de questions. On dirait que ça revient.
Ah ouais.
C'était un... Ça touche les énergies de la maison. Ça touche... C'est un peu ésotérique, là. OK? Mais les gens, il y en a qui croient à ça.
Ouais, bien, OK. Ouais.
Je te dirais, ça va toucher toute la tendance zen, la tendance verte va ramener ces éléments de feng shui-là qui sont... Vous pouvez aller sur Google, je vois que tu y étais.
Je vois, là, je m'en vais. Je viens d'en trouver un segment, là.
Ben, c'est ça, je suis sûr que tu peux avoir plusieurs liens là-dessus. J'invite les auditeurs à le faire s'ils sont intéressés. Mais soyez assurés d'une chose, que des gens, des entrepreneurs et même des gens dans le dessin, moi, j'ai le bureau de dessin de roman à Longueuil, Sylvain Charette, qui est un gars qui connaît ça un peu, mais c'est une clientèle. Quand la clientèle est très bien renseignée, ça devient un contrat qui est très, très long. Soyez patient si vous vous en allez là-dedans, parce que des experts feng shui, il y en a qui vont décider de le devenir, mais il y en a qui sont des vrais. Faites des recherches comme il faut et renseignez-vous comme il faut parce que c'est tout un contrat. C'est tout un contrat. Ça touche le côté oriental, ça touche le côté japonais. Je crois qu'un des éléments...
Largeur de porte. Ils peuvent parler de ne pas mettre une porte de cette largeur-là. C'est pas bon pour l'énergie. Ils vont peut-être dire de ne pas placer le lit sous une fenêtre, des choses comme ça. Alors moi, je n'ai pas embarqué dans parce que je me dis, la cliente qui m'appelle... on ne parlera pas qu'elle a quatre murs dans sa chambre. Toutes les chambres ont quatre murs. Mais dans le fond, pourquoi ça serait tout pareil pour tout le monde? Moi, je ne crois pas à
moi
ça
non plus.
Totalement.
Je suis pas
contre les gens qui vont suivre ça. Oui, je vais en prendre et je vais en laisser. Alors là, je suis encore modérée. Qu'est-ce que Stéphane va me dire? Je suis toujours l'entre-deux. Moi, je pèse toujours le pour et le contre. Puis moi, j'y vais avec mon feeling. Si je rentre dans la chambre et j'aime pas ça, je me sens pas bien, pourquoi je me sens pas bien? Je dois trouver, c'est comme on expliquait l'autre jour, le maillon faible. Qu'est-ce que j'aime pas dans cette pièce-là? Ça ne sera pas nécessairement parce que le lit est en dessous de la fenêtre.
Mais on est Canadien, mais il semble qu'on devrait trouver des concepts canadiens qui nous mettent en contact avec notre environnement.
Ben,
okay,
que
ce
oui.
soit les feuilles à l'automne, donc on met des fenêtres ou peu importe, je ne sais pas, d'une certaine façon, on est Canadien. Je comprends que...
Tu regardes les tendances, c'est que souvent, là, à un moment donné, les gens, la population voyait que le niveau de stress augmentait. Bon, bien, quelle est la population qui a l'air le moins stressée? Bon, tu vois, les Chinois, le côté oriental a toujours amené un côté zen et le côté calme. Alors, ouais,
on est dans un univers de perception. Bon,
voilà.
Tu sais, veux dire, là, les Chinois, là, ma soeur, hier, en parlait de tout ça, on voyait, là, comme Fupanda, pas comme Fupanda, là, ça, c'est veut dire, avec le fils, là,
Pas Jackie Chan?
Ouais, ben c'est ça, là, exactement. Ouais. Là, bon, puis là, ils sont tous habillés en rouge, sont à peu près, je sais pas, admettons, il y en a 500, 1000, puis ils bougent tous en même temps, puis etc. Là, ouais. Ma soeur était là, puis elle disait, la discipline des Chinois. Ben, regarde-moi ça, comment ils sont. Puis, ça, c'est un peuple. J'ai dit, ouais, mais Chantal, sais-tu comment ils sont de milliers? Ils sont plus qu'un milliard.
Certain,
okay?
Ouais.
Deux, bien, ils ont des problèmes dans bon point. Fait que ça se peut-tu que la perception qu'on a de leurs affaires qui sont juste bonnes, bien, on peut peut-être regarder les pas bonnes aussi. Mais ultimement, ici, là, je veux dire, si je vis au Canada, pourquoi je mets pas en... On a le pays qui est le plus grand au monde, bâtard. Peux-tu juste utiliser ces éléments?
On le fait. On le fait, mais chacun veut aller chercher un petit côté personnalisé. Comme Chantal dit...
Ah oui, c'est comme amener un palmier au Canada.
Ben regarde, il en a-tu qu'ils font?
On peut aller chercher quand même des choses.
T'as de l'air à sourire, toi. T'en as-tu un palmier dans ta cour?
Non, j'en ai pas de palmier, moi.
Une chance.
Je pense qu'on peut prendre...
On était partis sur une mauvaise traque. Mais je vous dis, c'est des techniques. C'est pas des techniques, c'est des croyances jumelées à des techniques, puis il y a des critères très spécifiques. C'est pour ça que j'aime pas employer le terme croyance, parce que t'as une marche à suivre.
En passant, excusez, madame et messieurs, si jamais vous êtes décoré feng shui et que je suis en train de vous offenser, c'est simplement qu'on a des points de vue différents.
Mais appelez-nous si vous avez une maison feng shui, que vous puissiez nous expliquer les bienfaits de tout cela, parce que moi aussi, je suis un peu dans les nuages et je n'ai jamais visité, mais j'ai entendu parler de clients qui voulaient ça. Et regarde, ça revient. C'est pour ça que je voulais en parler avec Chantal. Ça revient.
Oui, ce que j'aime beaucoup au niveau des tendances japonaises et chinoises, ils vont utiliser le bambou, ils vont utiliser des matériaux bruts, la végétation. Ça, c'est un point fort qu'ils ont, là. Alors, nous, on va utiliser peut-être des matériaux un petit peu plus à l'état brut, mais eux autres, ils vont y aller avec la végétation, fait que le côté écologique. Le bambou, on dira ce qu'on voudra, ça vient de ces régions-là aussi, en Asie. Donc, ils ont un petit côté qui peut... À certains endroits, ils peuvent nous apporter certaines choses. Mais moi, quand je dis aussi, tu sais, il ne faut pas non plus tomber en amour avec tous ces produits-là. Là. Je pense qu'il faut, comme tu dis, en prendre un petit peu partout. La Californie peut avoir des choses intéressantes. Le Mexique, c'est une belle région aussi. On va là, c'est très chaleureux. On peut apporter des choses différentes, une culture différente. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Hein. On est là pour... moi, Je décore ici à Québec, mais je fais toutes les nationalités.
Ouais. Tu veux dire quoi, nationalité? Des clients de, qui ont
Je peux avoir un client qui est amérindien. Je peux avoir un client qui peut être mexicain.
As-tu des Québécois?
Je peux avoir des Japonais aussi, là, mais je les ai pas tout eus encore, là, mais en tout cas.
Mais à ce niveau-là, il faut faire attention que oui, on peut amalgamer des styles, mais faut pas être trop large, dans le sens que si votre maison est une victorienne, essayez de maintenir le style victorien. C'est
donc,
ça qui va
donner.
Donc,
quand j'achète la maison, on devrait déjà, au niveau architectural...
On devrait avoir l'inspiration intérieure de ce qu'elle dégage à l'extérieur.
Bon.
OK? Dans mon opinion, moi...
Si elle est transformée, c'est pas évident.
C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, tu vas retrouver les styles, le mélange des styles, je pense que oui, mais à un moment donné, il y a un style qui doit dominer. Si tu es un contemporain, justement, arrive pas avec le panier en plastique à l'intérieur de la maison avec les toiles qui vont faire un peu créole et ainsi de suite. Chantal, ton opinion est aussi bonne que la mienne. Moi, je dis, faites attention à ça parce que si on a un mélange de tous les styles, tu viens de perdre une identité,
l'âme
de ta maison.
Faut que ça soit bien dosé. Et puis aussi, moi, où j'aime aller aussi en Europe, là, si on va sur la Côte d'Azur, ces endroits-là, ils ont beaucoup, beaucoup de couleurs, des couleurs des jaunes citronnés, des bleus poudre, beaucoup, beaucoup de blanc. Alors, il y a des gens à Québec qui vont aller chercher des revues côté nord, côté sud, et on va prendre des idées de là-bas.
C'est quoi ça, côté nord, côté sud?
C'est des revues. C'est des revues de décoration, ça s'appelle côté nord, côté sud, Provence. Alors, les gens vont aller chercher une revue de Provence, vont aller chercher une revue qui vient du Mexique. Puis tu peux aller chercher différentes idées puis mélanger ça. Moi, je ne suis pas contre arriver des fois puis faire une maison. Tu peux aller avec un style classique, mais on appelle ça le style Tudor. Tu sais, c'était dans les années 1960, le style Tudor.
Qui a été populaire ici au Québec.
Qui était très, très populaire. Puis c'est ça, tu vas aller chercher des lambris, tu vas aller chercher de la blancheur, mais en même temps, ça va faire un petit peu épuré et moderne. Pas loin du moderne, mais entre le rustique et le moderne.
Qu'est-ce qu'un lambris?
Un lambris, on n'en avait pas parlé il y a deux semaines, non?
On a oublié
Stéphane,
déjà.
Mais je pense pas.
Un mur de lambris, là, dans le fond, c'est des appliqués de bois qu'on va ajouter pour faire des demi-murs à 42 pouces.
Des demi-murs. Ma sœur en parlait hier, elle regardait une revue, puis elle parlait des demi-murs. Puis elle dit, c'est donc beau, je n'avais jamais pensé à ça. Là, je souriais dans mon coin, je me disais, ben oui, moi, ça fait longtemps que je sais ça.
Tu t'en viens bon, toi?
On peut faire un 2 tiers, on peut faire un 42 pouces,
sur un
52
plein.
Pouces, oui.
Tu fais une espèce de moulure avec du bois dans le bas du mur.
Oui,
là.
Puis on va jouer avec des volumes. Alors, on va prendre comme une plinthe, puis on va venir la coller au pourtour. Ça va donner un volume, comme un panneau d'armoire. Quand on a un panneau d'armoire avec un carré qui est soufflé au pourtour, c'est comme si on avait mis des panneaux d'armoire comme ça.
D'accord.
Bien, on va faire un petit mute pour nous autres, une pause, et on va prendre un petit break et on vous revient. Vous êtes sur les ondes d'XM.